Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le verdict est en train de tomber au procès d'Abdelkader Merah et de Feta Malki. Les juges de la cour d'assises spéciale ont fini de délibérer. La perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans avait été requise contre le premier pour complicité dans les assassinats commis par son frère Mohamed en mars 2012 à Montauban et à Toulouse. Ses avocats ont plaidé l'acquittement. Le second prévenu encourt une peine de 20 ans de réclusion. Il était poursuivi pour avoir fourni une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah. Alors comme tous les procès d'assises liés à des affaires de terrorisme, celui-ci aura été hors norme par le temps de l'instruction, par la durée des débats, par le nombre de parties civiles et d'avocats, mais aussi parce que ceux qui étaient dans le box des accusés n'étaient pas ceux qu'on aurait d'abord voulu y voir. Mohamed Merah est mort, tout comme la plupart des terroristes qui sont passés à l'acte en France en 2015. Dès lors, ce ne sont plus les responsables directs des attentats qui sont jugés dans ces procès, à la fois indispensables pour les familles et la société, mais sans doute aussi frustrants du fait de cette absence. Alors comment juger les terroristes? Eh bien, c'est de cette question dont nous allons parler ce soir avec trois invités. Marie Dauzé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Vous avez défendu et vous allez défendre des prévenus dans des affaires de terrorisme. Pour discuter avec vous, Antoine Mégy, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Rouen, spécialiste de la lutte contre le terrorisme. Et au téléphone depuis Lyon, notre troisième invité, Virginie Sansico, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, enseignante et chercheuse associée au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Vous avez publié aux éditions Talendier en 2015 « La justice déshonorée 1940-1944 ». Alors, le verdict, je vous le disais au début de cette émission, est en train de tomber. Je ne voudrais pas qu'on dise trop de bêtises, donc on va s'en tenir à ce que disent pour l'instant les agences de presse. Là, il y a une dépêche, source des journalistes de France Info qui sont sur place aux assises spéciales de Paris. Abdelkader Merah, reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Je lis exactement comme la dépêche est rédigée, mais n'est pas reconnu coupable de complicité. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende, ça va tomber dans les minutes qui viennent, on aura Florence Turm qui est la journaliste de France Culture qui suit ce procès depuis le début pour avoir justement une vision assez claire de ce verdict. Mais peut-être, pour commencer avec vous, Antoine Mégy, Marie Dauzé et Virginie Sansico, j'aimerais avoir votre impression sur ce procès, en tout cas sur sa nature et sa place qu'il peut avoir aujourd'hui dans l'histoire des procès pour terrorisme. Est-ce que vous y avez vu un procès assez typique finalement de ce qui existe d'habitude, ou bien est-ce que celui-ci était différent des autres, Antoine Mégy?
Alors effectivement, c'est toujours une question qui se pose quand on parle de terrorisme, encore plus depuis les dernières années. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a une nouveauté? Ou au contraire, est-ce qu'on est finalement dans le fil de l'histoire et est-ce qu'on peut s'inspirer de ce qu'on a connu auparavant? Effectivement, ce procès, de par la couverture médiatique, de par la place des victimes, est apparu comme un procès assez spécial, assez singulier. Il n'empêche, il est aussi un élément de ce qu'on appelle la justice antiterroriste aujourd'hui. Il montre une facette de cette justice, et le titre de votre émission est « Comment juger les terroristes ?». Il montre donc une manière de juger les terroristes, à savoir avec les cours d'assises spécialement composées. Donc on est dans un élément très particulier, les cours d'assises spécialement composées, et il faut bien voir ce procès comme peut-être un des éléments de ce qu'on va vivre par la suite, avec ce déséquilibre entre des parties civiles très présentes et puis des accusés, en tout cas considérés comme les principaux auteurs, qui eux sont absents.
Alors je me tourne aussi tout de suite vers l'historienne que vous êtes, Virginie Sansico, pour voir comment vous le situez, ce procès, dans l'histoire des procès du terrorisme en France en tout cas.
Oui, ben dans la continuité de ce que dit Antoine Mégy, effectivement, c'est une manière de rendre la justice à travers ces cours d'assises spéciales. Donc bon, qui ressemble, on va dire, à un certain nombre de procès qui se sont tenus et dont le verdict, finalement, pas si surprenant que ça, a priori, d'après les éléments qu'on a, nous laisse supposer quand même une certaine continuité. Après, cela dit, il y avait quand même quelques éléments nouveaux dans la perception de ce procès, notamment par la société civile et par les parties civiles. notamment à travers un certain nombre de demandes qui avaient été faites de filmer ce procès pour la mémoire. Le nombre de parties civiles présentes aussi était assez atypique. Et je pense qu'on a affaire, peut-être pour la première fois, un procès qui est perçu vraiment comme historique, à tort ou à raison, mais en tout cas par un certain nombre de parties civiles et de la société civile en tout cas.
Marie Dosé, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être eu un décalage justement entre ce que pouvaient être les attentes de la société civile, d'en faire un moment extrêmement fort et historique, et la nature exacte de ce procès, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas jugées pour les faits, pour les assassinats directs, mais pour complicité, ce qui n'est pas exactement du même registre.
Mais ça va être tout le défi de l'institution judiciaire que de résister à la violence émotionnelle des parties civiles, de s'en émanciper et de les tenir à distance. C'est terrifiant, mais c'est ce qui doit être fait parce que la justice n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour donner la place à cette violence émotionnelle-là. Donc la question que posait mon confrère de savoir si la place réservée dans le box à Abdelkader Merah aurait été la même si son frère était encore en vie est une bonne question que les magistrats doivent se poser. Et si acquittement...
Vous y répondriez comment d'ailleurs à cette question-là ?
Écoutez, c'est compliqué d'abord parce que j'ai pas eu le dossier entre les mains et que je sais à quel point on ne peut pas analyser un dossier sans l'avoir eu entre les mains. Mais force est de constater tout de même que ces absences vont être difficiles à pallier et qu'il était compliqué pour les parties civiles d'avoir un box vide et que ne serait-ce que l'acquittement, en tout cas sur la complicité d'assassinat, démontre qu'il n'y avait pas assez de charges pour le condamner sur ce point-là. Et que donc, au moins, la décision judiciaire est passée. Mais effectivement, c'est une question légitime qui va devoir se poser sur d'autres procès.
Cette charge émotionnelle, Antoine Mégy, elle était sans doute d'autant plus forte que ce procès, on l'a qualifié de procès Merah. Procès Merah, c'est celui d'Abdelkader. Il n'était pas seul. Feta Malki, qui, alors lui aussi, c'est ce que on apprend là dans une dépêche, à nouveau est reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Il faut attendre encore un peu parce qu'on attend l'énoncé des peines. Mais il y avait évidemment cet amalgame entre les deux frères Merah, celui qui est mort et celui qui est encore en vie.
Alors effectivement, on avait ce nom. Hein, qui renvoyait plus à un cercle familial qu'à une personne. Et d'ailleurs, c'est ce cercle familial qui a été au cœur d'une partie des débats contradictoires. Sur cette idée, je pense que la place des victimes aujourd'hui, elle n'est pas spécifique au contentieux terroriste. C'est un mouvement beaucoup plus large qui traverse la justice contemporaine, qui est celle de la place des victimes. Et des personnes comme Denis Salas ont bien montré comment les victimes sont apparues comme des acteurs centraux. Hein, de la justice contemporaine. Donc c'est certes quelque chose qui est très fort dans le procès qu'on nous dit le procès Merah, mais c'est un phénomène que l'on retrouve dans l'ensemble de la justice et du contentieux, notamment criminel et des cours d'assises.
La pression est peut-être d'autant plus importante à supporter qu'on est sur des affaires de terrorisme, Marie Dosé, ce qui d'ailleurs justifie sans doute aussi le fait que ceux qui jugent ces affaires sont des magistrats professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être plus en capacité de résister à cette très forte pression.
Exactement, parce qu'on est très rapidement pris en otage par cette émotion. Là. On peut imaginer, c'est vrai que les parties civiles sont passées des parents pauvres de la procédure pénale à aujourd'hui une omniprésence qui confine parfois à la prise en otage des magistrats et des jurés populaires surtout, parce que l'émotion est trop forte et que effectivement, c'est aussi faire œuvre de justice que d'expliquer aux parties civiles que la justice, le procès est là pour juger un homme et non pas pour essayer de calmer ou de gérer une émotion. Et c'est extrêmement compliqué, notamment dans ces procès. Donc il est vrai, et je rejoins tout à fait notre interlocuteur, que de plus en plus, la place des victimes dans le procès pénal est prégnante et que dans ce procès-là, mais dans les procès à venir, dans les procès terroristes, elle risque effectivement d'éclater.
Est-ce que c'est un phénomène que vous constatez également, Virginie Sansico ?
Oui, bien sûr, tout à fait. Après, le souci, c'est que la connaissance du droit et de la justice est assez maigre, de manière générale, dans la société civile. Et il faudrait pouvoir rappeler ce que c'est que le rôle d'un procès. Or, le procès, c'est pas le lieu pour faire un cours de droit. Donc, c'est toujours perçu comme d'une extrême violence par les parties civiles de ressentir la manière dont se déroulent ces procédures et les décisions qui y sont prises, qui ne répondent forcément pas aux attentes réelles de ces gens. Mais après, il faut les entendre aussi, ces attentes qui sont réelles. Il faut arriver à y répondre de manière pédagogique et sans cynisme, parce que ces gens-là ont besoin aussi d'être entendus.
Voilà, il y a aussi une dimension cathartique dans les procès, et notamment dans les procès pour terrorisme. C'est compliqué d'effacer cette dimension-là, même si ça n'est pas une dimension juridique, Virginie Sancicco.
Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'il faut s'efforcer de faire. Le procès, moi je vois des liens évidemment avec les procès de la deuxième épuration qu'on a appelés les procès par Papon, Barbie, Touvier, etc., où il y avait évidemment une grande attente sociale, mais il a fallu dire qu'effectivement le procès Papon, c'était pas le procès de la collaboration, mais le procès d'un fonctionnaire de l'État, etc., etc. Mais c'est pas évident à faire quand il y a des faits qui sont aussi récents. Et d'une telle gravité. Je pense que c'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on tuait des enfants à bout portant pour des raisons politiques. En tout cas, voilà, c'est une réalité et qu'il faut entendre.
Il y a eu un article très intéressant sur le site Slate, il y a quelques jours de cela, du journaliste Philippe Boggio, qui écrit notamment ceci. Il y a fort à craindre que les procès à venir du terrorisme des années 2010 seront marqués par une rage d'autant plus impuissante que les familles auront vécu dans un espoir vain. Trop attendre d'un procès de crime djihadiste ne fait que retarder les possibilités d'oubli. Vous en pensez quoi, Antoine Mégy?
Alors, deux éléments. Je pense que là, c'est l'État et la société qui est face à la question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un procès et aux autorités judiciaires qui sont en charge de mener ce procès de résoudre la question politique du terrorisme. On ne peut pas demander à l'autorité judiciaire de produire de la résilience toute seule. C'est aussi aux politiques, à leurs paroles, c'est aussi aux médias, c'est aussi à l'opinion publique, de construire cette résilience autour des victimes. Et je prendrai l'exemple de ce qui s'est passé en Espagne après les attentats de la gare d'Atocha. On a eu un vrai débat politique justement sur les causes de cet attentat, et ce débat a totalement, d'après les familles de victimes, mais aussi des magistrats et d'autres commentateurs, a totalement écarté le discours des victimes. Et on a eu une frustration énorme, non pas par rapport à l'autorité judiciaire, mais par rapport à l'autorité politique, par rapport au traitement médiatique de ces victimes de la gare d'Atocha. Et l'autorité judiciaire s'est retrouvée dans cette situation où elle a dû gérer finalement ce moment de dommage aux victimes. Donc c'est aussi plus largement une question qui se pose à notre société et à notre pouvoir politique. Ce n'est pas à la justice de devoir gérer, et on demande beaucoup souvent à la justice, de devoir gérer et la question du droit des condamnations et la question de l'émotion. Et c'est souvent ce qu'on demande, notamment dans le cadre des audiences et des procès.
Marie Dosé.
Oui, par contre, moi je vais faire un mea culpa, même si je ne suis quasiment jamais avocate partie civile. Je pense que mes confrères de partie civile doivent véritablement faire un travail avec leurs clients et leur expliquer ce qu'est un procès, ce qu'il ne faut pas attendre d'un procès, ce qu'ils vont rencontrer dans un procès, parce que nécessairement, les parties civiles vont rencontrer des principes essentiels du droit, comme le doute qui doit profiter à l'accusé, comme la présomption d'innocence, et le contradictoire, qui parfois est extrêmement compliqué à supporter lorsque la défense a la parole en dernier. Tout cela, ils n'y sont pas préparés, et je pense que nous, avocats, nous avons un véritable travail pédagogique à faire avant que ces parties civiles entrent dans un procès. On a vu des confrontations dans le procès Mera entre mon confrère Éric Dupond-Moretti et une partie civile qui est allée jusqu'à lui dire « vous êtes méchant » parce que finalement, ils ne sont pas assez préparés à ce qui les attend nécessairement, parce que dans un procès, dans une enceinte judiciaire, c'est cela qu'il se passe.
Vous, les avocats, vous devez peut-être davantage préparer les parties civiles. Nous, les journalistes, puisqu'on est un peu aussi dans le mea culpa, peut-être qu'il faut davantage aussi préparer l'opinion. Je rappelle que ce qu'on sait pour l'instant de ce procès d'Abdelkader Merah et Feta Malki, c'est que Abdelkader Merah est reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas reconnu coupable de complicité, ce qui laisse supposer que la peine qui lui sera attribuée sera moins importante que ce qui avait été requis, à savoir la perpétuité avec 22 ans de sûreté. On peut aussi imaginer que si la peine est moins importante que ce qui avait été requis, il y ait des réactions, et on en est à peu près sûr, c'est-à-dire des réactions qui vont être extrêmement critiques et hostiles à la justice, parce qu'on n'aura sans doute pas sanctionné suffisamment sévèrement pour certains les prévenus. Donc il y a aussi ce travail à faire. Je ne sais pas si vous voulez ajouter à quelque chose, mais là c'était plus presque un commentaire qu'une question.
Mais est-ce que cette position n'est pas finalement toujours la position de la justice. Si elle condamne trop fortement, on lui reproche, et si elle condamne pas assez fortement, on lui reproche. Je pense que c'est aussi le rôle de la justice de jouer cette position finalement en prenant en compte les émotions, en prenant en compte la dimension politique, parce qu'elle est prise en compte dans l'audience dont on discute depuis plusieurs minutes, mais c'est aussi à la justice d'affirmer finalement la règle du droit.
Vous savez, dans le cadre de cette affaire, je rappelle que mes confrères de la Défense ont plaidé l'acquittement sur les deux infractions, complicité et association de malfaiteurs. Donc il risque d'y avoir un appel de part et d'autre, de la part du parquet parce qu'il sera mécontent, et de la part de la Défense parce que elle aussi n'aura pas eu gain de cause sur ces deux acquittements sollicités.
Alors, je vous rappelle qu'on est toujours dans l'attente du prononcé des peines dans ce procès. Mais je voudrais qu'on aille un petit peu au-delà, parce que, alors, évidemment, c'est un procès, c'est une affaire qui a beaucoup fait parler, parce qu'il y a un côté spectaculaire, et puis, évidemment, extrêmement grave par rapport à ce qui s'était passé en 2012. Mais la justice anti-terroriste, elle fonctionne de manière aussi, sans doute, beaucoup plus discrète aujourd'hui. Énormément de condamnations en France, Antoine Mégy, pour des faits de terrorisme. Une des raisons, c'est que la définition du terrorisme s'est beaucoup élargie au fil des dernières années. On peut être poursuivi dans des affaires de manière beaucoup plus large qu'autrefois. J'ai vu que les procédures pour terrorisme avaient augmenté de 93% le nombre de saisies relevant du terrorisme entre début 2016 et début 2017.
Alors, les autorités judiciaires parlent d'une massification. Donc c'est le terme qui est utilisé. Et effectivement, on a aujourd'hui, à peu près depuis 2015, une augmentation exponentielle, en tout cas des audiences de jugement et des instructions et donc des enquêtes préliminaires. Bref, toute la chaîne, qui est une chaîne spécialisée depuis les années 80 sur la question du terrorisme, toute la chaîne pénale antiterroriste, connaît aujourd'hui une massification des affaires. Ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que finalement, face à cette massification, on a des instruments qui ont été mis en place par la politique pénale, mais aussi par le pouvoir politique, avec des nouvelles législations, avec des nouvelles politiques pénales, et bien évidemment, il y a un phénomène social. La France a été un des pays les plus touchés par les départs et les retours de Syrie. Mais il y a aussi le résultat d'une politique pénale de judiciarisation. Et il faut bien comprendre qu'en France, on est dans cette politique pénale depuis 2015. Et cette politique ne cesse de se renforcer. Je prendrai l'exemple des femmes qui, jusqu'à 2016, n'étaient pas forcément judiciarisées dans le cadre des retours de la zone irako-syrienne et qui, depuis 2016, sont quasiment systématiquement judiciarisées. C'est une volonté de la politique pénale. Donc, si on parle de massification, avant de parler des effets et des condamnations, faut aussi comprendre que c'est le résultat à la fois d'une législation, d'une politique pénale et d'un phénomène social. Mais on a une co-construction de ce phénomène sans précédent pour l'autorité judiciaire française.
Et est-ce que la justice est capable de faire face à cette forte judiciarisation, Marie Dosé ?
Moi, je le constate sur le terrain, non, absolument pas. Non, parce qu'elle est obligée de mettre entre parenthèses ce qui pourtant est l'essence même de l'œuvre judiciaire, la personnalité des uns et des autres. C'est-à-dire qu'en réalité, cette judiciarisation, cette massification dont parle mon interlocuteur, et à très juste titre, nécessite nécessairement des instruments pour mieux connaître celui qu'on juge, surtout dans des infractions comme celle-là. Il est facile de cumuler des affaires, et notamment avec ce délit fourre-tout que nous appelons délit poubelle, l'association de malfaiteurs, il est facile de mettre en examen, de juger, de condamner, de choisir même les courts-circuits, puisqu'il y a des comparutions immédiates désormais terroristes, à visée terroriste, ou de multiplier les instructions judiciaires. Mais l'important, c'est que fait-on sur la personnalité ? Quelle expertise médico-psychologique ? Quel suivi psychologique ? Quel travail pour déradicaliser les uns et les autres ? Et là, nécessairement, nous en arrivons à la case prison, ou à la case peine, ou à la case contrôle judiciaire, ou à la case détention provisoire. Rien, strictement rien n'est fait.
Donc mais ce travail, Marie Dosé, sur la personnalité, il est différent, ou il doit être différent que pour des prévenus plus classiques, disons ?
Mais bien sûr, en tout cas, pas forcément différent, mais il doit être réalisé avec plus de profondeur encore et plus de compétences. La déradicalisation, elle va pas se faire en maison d'arrêt avec des ateliers poterie. Le suivi médico-psychologique en détention qui finalement ne sert plus qu'à faire supporter la détention aux uns et aux autres, exige un peu plus que cela, s'agissant des personnes mises en examen pour un passage à l'acte comme celui d'une infraction à visée terroriste. Il faut donner les moyens de faire exister le travail sur la personnalité de ces personnes. Sinon, elles sortiront et elles seront encore plus dangereuses. On est actuellement, s'agissant des maisons d'arrêt, dans des prisons qui fabriquent du terrorisme.
Virginie Sansicot, depuis début 2017, les délits d'apologie du terrorisme et de consultation de sites djihadistes, notamment, je crois que j'oublie un troisième élément, mais peuvent être jugés en comparution immédiate. Est-ce qu'on pourrait parler aujourd'hui d'une forme de justice antiterroriste à la chaîne ?
C'est évidemment ce qui est dénoncé par un certain nombre d'acteurs publics, évidemment. Oui, ça pose question. Ça pose évidemment question pour les raisons qui ont été soulignées juste avant, dans le sens où il faut, pour une véritable efficacité, pouvoir creuser davantage ces dossiers, y compris pour une efficacité en termes de renseignement, puisque c'est aussi ça qui intervient dans ces dossiers-là, c'est qu'on a besoin d'aller plus en avant pour comprendre ce qui se trame derrière un petit cas, éventuellement, si vraiment il y a un lien avec des faits terroristes plus larges dans un fait, par exemple, d'apologie du terrorisme. Donc il y a besoin de creuser ces dossiers. Et effectivement, sur des cas comme ça, ça pose un réel problème et d'efficacité et effectivement même potentiellement de renseignement.
Creuser ces dossiers, mais ça ne répond pas forcément, même si on prend le temps, Marie Dosé, à la question qui est quand même une question essentielle, c'est de savoir si, dans le cas de personnes qui ne sont pas poursuivies pour avoir commis des actes terroristes et qui sont soupçonnés d'avoir voulu en commettre, si elles seraient vraiment passées à l'acte. Là aussi, on passe à une autre dimension de la justice.
Bien sûr, c'est une justice prédictive, c'est-à-dire qu'on va transformer le principe de précaution en principe d'anxiété, là. C'est-à-dire qu'on va punir une intention, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui est passé par la tête de quelqu'un. Et donc, j'en reviens à ce que je disais, c'est pour cela qu'il faut travailler sur la personnalité, là. C'est justement parmi ces personnes qui ont à un moment donné eu un discours d'apologie, mais était-ce pour rire, était-ce pour mieux se faire voir, était-ce finalement parce qu'ils le pensent un petit peu qu'il faut travailler sur la personnalité. Et c'est là qu'on ne le fait pas. Donc c'est extrêmement dangereux.
Antoine Négy.
La plupart des personnes qui aujourd'hui sont poursuivies, ou en tout cas jugées, hein, j'entends jugées, donc dans des procédures qui existent depuis 2-3 ans, hein, puisque les personnes qui sont jugées aujourd'hui sont des personnes qui ont été mis dans des procédures judiciaires pour des actes commis entre 2010 et 2014-2015, hein, du fait du temps de l'instruction. Donc la plupart de ces personnes, notamment à la Cour correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, sont des personnes accusées de participation à une association de malfaiteurs en une entreprise terroriste sur ce qu'on appelle les filières de départ. Donc c'est des personnes qui sont accusées d'être parties, d'avoir intégrer des groupes qualifiés de terrorisme, et c'est là-dessus que se fonde l'association de malfaiteurs, l'infraction. Et la question qui se pose et qui a été soulevée tout à l'heure, c'est maintenant qu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, aujourd'hui, dans les cours correctionnelles, on juge des personnes sur les faits qu'ils ont commis, le fait d'être parti, d'avoir séjourné en Syrie, d'avoir participé ou non à des entraînements, c'est toujours très délicat de le savoir, elle le refuse, d'autres le donnent. Il y a aussi la question du renseignement, qu'est-ce qu'on a comme information sur ses séjours en Syrie. Et puis ensuite, on a les retours. Et là, on tombe sur la question de la justice prédictive, c'est-à-dire que on juge des faits commis, mais on juge aussi la question de la dangerosité et la question de la récidive. Et finalement, on entend souvent l'important, c'est le futur. C'est le futur, c'est-à-dire la condamnation, mais c'est aussi toute la question post-sentencielle. C'est-à-dire que on n'a plus d'aménagement de peine, hein, malgré les certains discours d'hommes politiques qui devraient aller voir un peu le terrain. Là aussi, on a une question de la parole du politique qui est importante. On n'a pas d'aménagement de peine. C'est terminé. Les aménagements de peine dans les jugements du contentieux terroriste n'existent plus. Et on a d'ailleurs une spécialisation des lois qui s'est faite depuis 2016 pour mettre des barrières à ces aménagements de peine. Donc, maintenant, la question, c'est comme on a des peines de plus en plus longues, entre 6 et 10 ans, voire plus quand on passera sur des cours d'assises spéciales, qu'est-ce qu'on va faire durant la peine, le sens de la peine, et qu'est-ce qu'on va faire après cette peine. Et là, on a vraiment une question centrale.
Voilà, question très importante. Je rappelle alors la question de base qu'on pose ce soir. Comment juger les terroristes? Donc en compagnie d'Antoine Mégy, de Virginie Sansico, qui est historienne. Antoine Mégy, vous êtes politologue et vous suivez notamment toutes les questions autour du terrorisme. Et Marie Dosé, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris, sur cette peine post-sententielle, Marie-Dosa, enfin, ce qui se passe en gros une fois que la peine est avérée. Il peut y avoir aussi une approche beaucoup plus radicale. Alors c'est celle, certes, des États-Unis, mais Donald Trump, qui s'est exprimé suite à l'attaque manifestement terroriste qui a eu lieu à New York il y a deux jours, s'est exprimé comme d'habitude sur Twitter en disant, voilà, l'auteur de l'attentat, il doit être exécuté, il réclame la peine de mort pour lui. Évidemment, on n'en est pas là aujourd'hui en France, mais est-ce que il ne peut pas y avoir aussi cette tentation de se dire, en tout cas, au moins pour ceux qui sont partis, de faire en sorte qu'ils ne reviennent pas?
Oui, je pense aux propos tenus par Florence Parly il n'y a pas très longtemps, c'est ça.
La
ministre des Armées, ils ont voulu y aller, qu'ils y restent, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ce qu'on peut comprendre aussi, enfin, c'est pas...
Non, je pense pas. Moi, je peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre parce que je pense qu'on ne lutte pas contre le pire avec le pire. Et je pense qu'exciter les peurs ne sert absolument à rien et qu'on doit répondre à l'arbitraire par l'intelligence. Voilà. Je le crois véritablement. C'est-à-dire que ces personnes sont françaises, elles doivent rentrer, elles doivent être jugées. Nous avons... Que les choses soient claires, ces personnes sont nées en France ou sont françaises, ont vécu en France, elles sont à un moment donné de leur vie parties en Syrie. C'est aussi ce que la République française a fabriqué. De pire, mais c'est aussi ce que la République française a fabriqué. C'est notre échec. Et notre échec, on le laisse là-bas parce qu'on veut le voir jugé par d'autres.
Oui, mais sauf que ce sont des personnes, Marie Dosé, qui rejettent justement la République. D'abord, ça sert à quoi de les juger puisqu'elles ne reconnaissent même pas, justement, la valeur de cette justice et donc la peine qui va leur être infligée.
Mais vous pouvez transférer ce raisonnement à tous les coupables ou à toutes les personnes mises en examen pour des actes terroristes. Le terroriste, c'est ça. C'est celui qui, à un moment donné, défie l'institution. C'est celui qui ne veut pas de l'institution. C'est celui qui veut faire mal à l'institution. Et donc, quoi? Donc, on lui refuse la justice, mais au contraire, il doit être, à un moment donné, réintégré dans la société. On doit pouvoir infliger une peine intelligente. On doit pouvoir faire en sorte qu'en prison, la déradicalisation existe pour le réintégrer, mais pas dire c'est plus notre problème, il veut pas nous, eh bien allons le faire juger ailleurs, qu'il y ait la peine de mort pour lui, mais dans un autre pays que le nôtre, parce que finalement, si nous avons créé ça, nous ne voulons pas en être responsables. C'est pas possible, ça n'est pas possible. Et encore une fois, la justice n'est pas une arme de guerre, c'est pas une façon de continuer la guerre, c'est pas ça du tout, au contraire.
Antoine Mégy.
C'est l'histoire même de la lutte contre le terrorisme, d'être, à toutes les époques, et Virginie pourra le souligner encore plus que moi, à toutes les époques, dans cette tension entre guerre et paix, et dans cette tension entre une justice de droit commun et une justice d'exception. L'histoire de l'antiterrorisme en France a été structurée autour à la fois des lois d'exception, fin du 19e, les lois scélérates, ou encore des tribunaux d'exception qui sont construits pour une période précise dans le cadre d'une crise particulière. Alors maintenant, si on en revient à une période plus contemporaine, vous parliez tout à l'heure des États-Unis, si on en revient à la réaction américaine après le 11 septembre 2001, on pense à Guantanamo. Qu'est-ce qu'a produit Guantanamo ? Guantanamo a produit un élément d'exception. On a eu des procès militaires qui ont marqué durablement l'image même de la démocratie américaine et qui ont construit finalement ce qu'attendaient les terroristes. À savoir, on est toujours dans cette logique d'action-réaction. Et c'est là où, bien sûr, que c'est très compliqué à comprendre, et on le voit même dans les audiences récentes, comment est-ce que quelqu'un qui refuse l'état de droit et la démocratie peut utiliser les armes de la démocratie pour se défendre? C'est une question centrale, mais c'est là où justement on est valeur contre valeur. Et c'est là peut-être que la justice a ce rôle à jouer de régulateur. Et à chaque fois que le pouvoir politique ou que les pouvoirs judiciaires ont cherché l'exception, finalement, cette exception a construit une sorte de radicalité et de radicalisation supplémentaire. Et on est enfermé dans ce cercle d'action-réaction.
Virginie Sansico.
Oui, alors je m'inscris, enfin, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, évidemment. Cela dit, On a dit tout à l'heure que la justice ne peut évidemment pas tout pour les parties civiles, et c'est une réalité violente, mais qu'il faut arriver à dire. Mais la justice ne peut pas tout également pour les acteurs du terrorisme. Je pense que ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est des problématiques qui dépassent de très loin nos tribunaux français. Et alors autant il y a évidemment aucun sens à dire qu'il reste mourir là-bas et c'est pas notre problème, autant espérer pouvoir résoudre des problématiques du Moyen-Orient qui impliquent nos responsabilités dans le cadre des départs de Français vers la Syrie. Mais voilà, les tribunaux français ne pourront pas résoudre tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, y compris pour les acteurs français du terrorisme qui sont partis, les djihadistes français qui sont partis là-bas pour combattre. Donc faut aussi, enfin voilà, c'est le bémol que je voulais apporter quand même.
Et on voit bien du coup voilà quelle est la complexité justement du fait de devoir juger des terroristes. Alors le verdict vient de tomber à la cour spéciale de Paris. Abdelkader Merah condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises spéciale, donc pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Il n'a pas été reconnu coupable de complicité dans les assassinats qu'avait perpétré son frère Mohamed en mars 2012. C'était à Toulouse et à Montauban. Mohamed Merah était seul, c'est ce qu'a déclaré, semble-t-il, le président de la cour. Et puis, s'agissant de l'autre prévenu, Feta Malki, il est condamné à 14 ans de prison avec une peine de 2/3 de sûreté. Il avait fourni un pistolet mitrailleur, des munitions et un gilet pare-balles. C'est toujours compliqué de faire réagir sur des informations qui tombent comme ça au compte-gouttes. Mais Marie-Dosé, est-ce que déjà on peut estimer la sévérité de la peine? C'est-à-dire que bien que reconnu non coupable de complicité, 20 ans de réclusion pour Abdelkader Merah, c'est surprenant. Enfin, je ne sais pas quel est le commentaire que vous souhaiteriez faire.
Écoutez, les magistrats ont décidé malgré tout de l'acquitter sur la complicité et ont constaté qu'il n'y avait aucun élément matériel pour le condamner. Premier constat. Second constat, ils ont aussi fait le choix d'aller jusqu'au maximum légal s'agissant de l'association de malfaiteurs. C'est un jugement extrêmement sévère d'aller jusqu'au maximum légal. Quant aux 14 années dont les 2/3 de sûreté, elles m'apparaissent également extrêmement sévère. Donc je ne sais pas si on a voulu là tout de suite faire état de peine exemplaire, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'avait sollicité le parquet. En même temps, je le contrebalance avec cet acquittement sur la complicité.
Eh bien, Virginie Sansicot, la justice antiterroriste est une justice qui se veut exemplaire, ou en tout cas on voit des peines qui se veulent exemplaires et peut-être de plus en plus sévères.
C'est sûr que ça a toujours été un enjeu, l'exemplarité dans la mise en place des procédures antiterroristes. Là, sur ce cas-là, je trouve qu'on j'ai pas suffisamment de recul sur la décision qui a été prise aujourd'hui pour en faire une analyse bien précise. Après, je trouve que, au vu de ce que j'ai pu suivre de ce procès, il semble que la justice a fonctionné de manière relativement, enfin, plutôt indépendante, sans répondre aux injonctions des parties civiles, sans non plus accepter tous les positionnements de Maître Dupond-Moretti notamment. Donc voilà, j'ai plutôt l'impression d'une justice à peu près qui a tenu compte un peu de tous les éléments de cette procédure de manière assez posée, mais après voilà, avec toute les réserves de l'immédiateté de cette analyse.
Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on disait d'ailleurs aussi au début de l'émission. C'était peut-être aussi un des intérêts que d'avoir des magistrats professionnels pour juger de ce genre d'affaires. Je voudrais qu'on termine, Antoine Mégy, cette discussion autour de notre question comment juger les terroristes, en abordant peut-être la question aussi des mineurs, qui est une question qui n'est pas tout à fait mince, puisque depuis 2016, il y a plus d'une cinquantaine, c'est peut-être même encore davantage aujourd'hui, de mineurs qui font l'objet de poursuites. Normalement, un mineur, ça relève de la justice des mineurs. Est-ce que cela relève à la fois de la justice des mineurs et de la justice antiterroriste? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, j'ai des collègues comme Laurent Bodelli qui travaillent sur cette question, et on voit bien que cette justice-là, elle est confrontée à une nouveauté aussi, de par le phénomène, à la fois, là encore, social et la judiciarisation qui existe. On a des instructions qui, si je ne me trompe pas, sont menées par le pôle spécialisé de l'instruction, c'est-à-dire la Galerie Saint-Éloi, mais on a une justice qui est une justice des mineurs. Donc ce qui nous montre là encore que la justice antiterroriste aujourd'hui, c'est pas juste les cours d'assises spécialement composées. C'est une multiplicité finalement de types de procédures, de jugements qui vont dès la justice des mineurs jusqu'au correctionnel, jusqu'au circuit court, jusqu'à la cour d'assises spécialement composée. Et le paradoxe, pour revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la justice spécialement composée, c'est spécialement composée parce que ce sont des magistrats professionnels. Mais ce ne sont en aucun cas des magistrats spécialisés dans les affaires de terrorisme. C'est bien ça presque le paradoxe, c'est que dans la justice correctionnelle des tribunaux où on a des personnes qui jugent pratiquement quotidiennement des affaires, que ce soit chez les mineurs ou chez les majeurs, on a une spécialisation qui s'est créée depuis quelques mois, voire quelques années. Et les cours d'assises spécialement composées, elles sont construites à chaque moment, à chaque procès différent.
Faute donc, de magistrats formés ou bien parce que c'est un
non,
choix délibéré?
Parce que ça fait partie de la construction des cours d'assises spécialement composées. C'est-à-dire que ce sont des magistrats, mais ce ne sont pas des magistrats spécialistes en matière de terrorisme. Et les avocats généraux qui représentent le ministère public ne sont pas non plus des spécialistes. Ce qui n'est pas le cas dans les tribunaux correctionnels. Donc on voit bien que on a une justice aussi qui cherche, qui se cherche et qui construit finalement un peu a vu son moyen de répondre à ce phénomène.
Ce serait mieux, Marie Dosé, si c'était des magistrats qui étaient spécialement formés?
Non, très sincèrement pas. Je pense que les magistrats instructeurs qui évoluent à la Galerie Saint-Éloi pendant 10 années sont marqués au fer rouge par leur formation, mais aussi par ce qu'ils rencontrent dans la violence, de ce qu'ils rencontrent dans les profils, la multiplicité des âges et des personnalités. Très sincèrement, il faut faire fi à un moment donné de la spécialisation. Les magistrats sont compétents tous pour juger des actes terroristes. Qu'à un moment donné, il faille une spécialisation pour instruire des affaires terroristes, parce que les commissions rogatoires sont diligentées avec les services plutôt qu'avec le commissariat du coin, etc., etc., c'est une évidence. Mais sur la phase de jugement, je trouve au contraire essentiel que des magistrats non spécialisés jugent et siègent.
Est-ce que c'est une possibilité qui existe aujourd'hui, qui est en réflexion, Virginie Sansicot, pour conclure?
Excusez-moi, j'ai eu une coupure.
Non, je vous demandais si l'idée peut-être d'avoir des magistrats qui seraient spécialement formés, ça peut être une évolution qui est à l'étude aujourd'hui?
Pour l'instant, la justice antiterroriste est en pleine mutation de toute façon, avec l'étatonnement que cela impose. Donc c'est des choses qui vont sans doute évoluer à l'avenir. Pour l'instant, il me semble que ce qui est en place à l'heure actuelle a l'air de se maintenir, même si des débats peuvent intervenir. Mais je pense qu'on est dans une justice en pleine mutation qui va petit à petit se bâtir, mais parce qu'elle doit se prononcer sur des faits qui se sont multipliés ces dernières années et qui ont interpellé de toute façon plus largement la société.
Voilà, et elle s'est prononcée justement. Elle s'est prononcée justement aujourd'hui à la Cour d'assises spéciale de Paris. Je vous rappelle donc le verdict. On en reparlera évidemment dans les journaux, notamment à 22h sur France Culture. Mais Abdelkader Merah, donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes criminels, mais non reconnu coupable de complicité dans les assassinats perpétrés par son frère en mars 2012. Quant à l'autre prévenu. Feta Malki, lui aussi reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. Il est condamné à 14 ans de prison avec une peine de 2/3 de sûreté. Voilà, merci beaucoup Antoine Mégy, Virginie Sansicot et Marie Dosé d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter comme chaque soir sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Du Grain à Moudre, c'est une émission qui est préparée par Philippine Lebray, Fanny Richet, Eva Pellerin, Antoine Tricot, Antoine Dulster, réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Anthony Thomasson. Dans un court instant, ce sera votre tour, Arnaud Laporte, pour la dispute.
En effet, Hervé Gardette, on parlera de littérature à 19h03. Vous me ramènerez un souvenir de Chicago, hein, vous n'oubliez pas.
Oui, parce que je pars demain matin et je laisse ma place demain.
À Émilie Chaudet.
Voilà, au Bel Air, donc toujours à Radio France, pour le Club des Idées du Grain.
Et
on parlera d'écologie et de politique.
Vous n'êtes pas franchement au courant, vous êtes déjà dans l'avion, c'est agréable.
Je lui laisse l'honneur d'annoncer son titre.
Bon vol à vous. 19h, France Culture, les titres de l'actualité avec Anne Fauquemberg.